Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci d'être toujours fidèle au rendez-vous de Métropolez-vous. Bienvenue à tous ceux qui découvrent cette émission. Pour ce dernier numéro de la saison avant la pause estivale, nous allons évoquer un sujet qui revient souvent à cette période de l'année. Je veux parler des travaux à Toulouse et dans sa périphérie. Même si nous serons sans doute quelques-uns à pester contre les perturbations que ces chantiers de voirie ou sur le réseau de transport peuvent générer dans nos déplacements quotidiens, la période des vacances d'été reste encore celle qui occasionne le moins de gêne pour les citoyens. Une bonne partie d'entre nous étant en vacances à ce moment de l'année. Que nous réservent les semaines qui viennent dans ce domaine? Vous avez peut-être entendu parler des travaux qui vont bientôt commencer sur la ligne A du métro. C'est un chantier très important, mais il y en aura d'autres cet été. Et c'est le sujet de cette émission. Travaux dans le métro, sur les lignes de bus, l'actualité des transports dans la métropole toulousaine. Comme nous allons parler de l'actualité des transports métropolitains, Métropolez-vous a le plaisir de recevoir Jean-Michel Latte, premier adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole en charge des transports et déplacements. Merci beaucoup Jean-Michel Latte pour votre présence dans ce studio. Vous êtes également président de Tisséo et c'est parmi vos fonctions celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui puisqu'il est question du métro et des transports en bus dans la métropole. Alors Tisséo, justement, je crois que tout le monde connaît cette société parmi nos auditeurs, mais quel est exactement son statut par rapport à la ville de Toulouse et la métropole?
Alors c'est très compliqué à comprendre en fait, parce que derrière Tisséo se cachent trois structures différentes. Il y a le réseau, les 2800 salariés qui font fonctionner les bus, les trams, etc. Il y a la structure qui s'occupe des travaux, de l'ingénierie. Et puis il y a l'autorité organisatrice des transports, ce qu'on appelle le SMTC Tisséo, que je préside. C'est la structure qui est un petit peu la tirelire de l'ensemble, qui récolte les attributions des collectivités locales, le versement transport, et qui fait le choix d'investir sur des projets nouveaux. C'est cette structure que je préside.
Alors, pour que les gens fassent une idée aussi du territoire desservi par Tisséo, parce que ça va bien au-delà, non seulement de Toulouse, mais même de la métropole toulousaine, c'est combien de communes en tout?
C'est 115 communes, puisqu'on intègre, au-delà de la métropole, le Sicoval, donc la région de la Bège, le Murtin, et puis le SITRP, Plaisance, voilà. Donc c'est une vaste zone.
Donc c'est vraiment l'aire urbaine toulousaine. Hein,
oui, je crois que c'est à peu près ça. Voilà, 115 communes.
Et donc, c'est le métro, ce sont les lignes de bus, les lignes Linéo, on en parlera dans quelques instants. J'oublie des choses là.
Oui, vous oubliez Mobibus, le transport des handicapés, qui est quelque chose de tout à fait important. Et puis, peut-être un jour, il y aura même du téléphérique.
Voilà, ce fameux téléphérique urbain. On en reparlera bientôt, je pense, dans quelques mois en tout cas, lorsque le chantier sera lancé. Oui. C'est pour 2019.
On aura l'enquête publique avant et puis le chantier sera lancé.
Merci pour toutes ces précisions Jean-Michel Latte. Nous allons revenir à Tisséo et à l'actualité des transports dans quelques minutes. Ce sera après le flash d'information métropolitaine de Corinne Saint-Félix que nous allons retrouver maintenant. Métropolez-vous, l'actu. Vous avez peut-être entendu ou lu cette information, Emmanuel Macron veut geler tous les grands projets. Par conséquent, vitesse réduite donc pour le projet de prolongement de la ligne grande vitesse Paris-Toulouse.
Oui, le président de la République a affirmé ce samedi que l'avenir n'était plus au grand projet. Ce prolongement de la LGV a déjà été remis en cause jeudi dernier, alors qu'il avait été déclaré d'utilité publique et urgent en 2016. Le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par des collectifs d'opposants, avait annulé cette décision. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé samedi, peu avant la déclaration du président, que l'État allait faire appel de cette décision par souci de cohérence, comme le souhaitaient d'ailleurs de nombreux élus locaux. Il y a 4 ans, le rapport dit Duron indiquait déjà que la première LGV prioritaire de France était la ligne Bordeaux-Toulouse. Selon les représentants de Toulouse Métropole, le département de la Haute-Garonne et la région Occitanie, cette ligne est essentielle pour le développement de la 4e ville de France et la région la plus attractive de ce pays. Il n'est pas acceptable que près de 4 millions de nos concitoyens soient privés de lignes à grande vitesse et restent à près de 5 heures de Paris. Les nouvelles lignes TGV inaugurées samedi dernier ont mis Rennes à 1h25 et Bordeaux à 2h04 de Paris. La nouvelle ligne Paris-Bordeaux met Toulouse à environ 4h20 de Paris et la liaison LGV Bordeaux-Toulouse réduirait le parcours à un peu plus de 3 heures.
En revanche, il y a des projets qui se concrétisent. Toulouse Métropole et le pays des Portes de Gascogne ont signé un contrat de réciprocité pour une nouvelle solidarité territoriale.
Dans les faits, il s'agit d'une volonté d'alliance des deux territoires. Ce contrat de réciprocité vise à dépasser la dualité opposant rural et urbain et à rapprocher les dynamiques territoriales urbaines et rurales. Les deux collectivités s'engagent à travailler de façon concertée, à créer des synergies entre les ressources de leur territoire pour bien sûr favoriser leur développement.
Comment ces rapprochements vont-ils se faire ?
Alors d'abord, dans le développement économique, bien sûr, avec une mise en cohérence des stratégies foncières, le soutien à la création d'entreprises, l'appui aux initiatives innovantes et la promotion du télétravail. Vient ensuite le soutien à l'agriculture raisonnée en mettant en œuvre un projet alimentaire de territoire et le maintien d'une agriculture de proximité. Puis le développement touristique avec la mise en place et la promotion de parcours touristiques associant les atouts des deux territoire. D'autres domaines seront bien sûr soutenus, le champ culturel ou les plans de mobilité entre les deux territoires, entre autres.
Un anniversaire maintenant, la Cité de l'Espace souffle ses 20 bougies. À cette occasion, le nouveau planétarium a été entièrement rénové.
Il a même été inauguré mardi par Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole. Le planétarium dernière génération vient remplacer l'installation créée en 2005 lors de la construction de l'Astralia. Doté d'un simulateur astronomique aux images vidéo de très haute définition et d'un système de boîtier de vote permettant au public d'interagir avec le spectacle, ce nouvel espace fait entrer Toulouse dans le top 3 mondial des planétariums avec Paris et Houston. La Cité de l'Espace a été ouverte à l'initiative de la mairie de Toulouse, c'était déjà en 1997. Ce site, devenu métropolitain depuis, dédié au spatial et à l'astronomie, leader européen des centres de culture scientifique, accueille plus de 320 000 visiteurs par an.
Rappelons que l'industrie spatiale européenne, de son côté, crée de nombreux emplois et débouchés commerciaux, notamment à Toulouse.
La moitié des effectifs nationaux du spatial et le quart des effectifs européens s'y concentrent. Toulouse, pôle majeur de l'industrie spatiale, occupe déjà une place de leader européen pour les satellites, les télécommunications, la climatologie ou en matière de sécurité et de localisation. Toulouse Métropole se mobilise pour soutenir la vitalité économique du secteur et conquérir de nouveaux marchés en participant au soutien de la filière par des investissements très importants, comme par exemple le campus d'innovation de Toulouse Aérospace.
Jean-Michel, là, dans ce flash d'information, il y en a beaucoup qui peuvent vous intéresser, notamment en tant que premier adjoint, évidemment, de la ville de Toulouse. La première, tout de même, cette affaire là, de gel des grands projets, notamment des grands projets de ligne à grande vitesse, puisque maintenant que le tronçon Bordeaux-Paris est définitivement terminé et qu'il a coûté fort cher, Emmanuel Macron a dit, bon, tout ça coûte trop cher, la ligne grande vitesse Toulouse-Bordeaux, on verra plus tard, on verra ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors,
c'est très inquiétant pour nous, hein, puisque Toulouse serait la seule ville, la seule grande ville, qui ne serait pas connectée sur ces lignes à grande vitesse. Et puis, la grande boucle grande vitesse qui devrait se terminer vers Narbonne et Montpellier ne serait pas réalisée. Donc, c'est très embêtant pour nous. Et on a, nous, un accueil qui est prévu de cette ligne sur Matabiau. On va avancer en espérant que les choses se débloquent.
Il y avait notamment, je crois, une connexion qui devait se faire avec la future troisième ligne de métro.
Exactement. Ce qui caractérise la troisième ligne, c'est qu'elle est en 5 points en interconnexion avec le réseau SNCF. Et en particulier, on avait sur Matabiau une grande gare LGV qui était tout à fait intéressante.
Il y a une information à laquelle je voudrais vous faire réagir qui ne concerne pas les transports, encore que c'est donc ce contrat de réciprocité entre Toulouse Métropole et le pays des Portes de Gascogne. Alors je sais que vous êtes attaché à la ruralité et à ce que peut apporter la métropole toulousaine aux territoires ruraux qui l'entourent. Un petit mot là-dessus.
C'est une histoire originale, c'est né du transport des morceaux d'Airbus de Bordeaux à Toulouse et c'est là que la métropole s'est liée à ces territoires en travaillant à ce secteur à grand gabarit, laissant passer au milieu de petits villages des gros morceaux d'Airbus. Donc il y a vraiment une solidarité qui est née, des échanges qui se sont prolongés et là c'est une concrétisation de ce que peuvent faire deux territoires différents mais totalement complémentaires.
Vous pouvez peut-être rappeler ce qu'est le pays des Portes de Gascogne, hein, les villes concernées, le territoire concerné.
Alors, c'est la partie du Gers qui correspond à l'axe Toulouse-Auch. En gros, je caricature un petit peu.
Il y a l'île Jourdain.
Voilà, l'île Jourdain, et c'est l'axe grand gabarit de l'Airbus A380.
Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Nous allons poursuivre notre échange en le concentrant maintenant sur notre sujet du jour, travaux dans le métro, sur les lignes de bus, l'actualité des transports dans la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, la suite avec l'invité de ce numéro, Jean-Michel Latte, premier adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole en charge des transports et déplacements et donc président du SMTC TICEO. La ligne A du métro va donc être en travaux et interrompue du 17 juillet au 20 août avec toutes les perturbations qu'on peut imaginer pour les usagers des transports en commun, même s'il y en a moins à cette période de l'année. Qu'est-ce qui rendait ces travaux indispensables et même urgents aujourd'hui?
Alors la ligne avait été conçue à l'origine en espérant 130 000 personnes par jour. Ce chiffre, qui était un chiffre important pour l'époque, a été atteint dès le premier mois d'exploitation de la ligne A, alors qu'on espérait des mois de perspective par rapport à ça. Aujourd'hui, on dépasse régulièrement les 230 000. 230 000, c'est quoi? C'est la saturation. À Jean Jaurès, à 17h, on a ce qu'on appelle du reste à quai. Il faut attendre parfois deux rames avant de monter dans la bonne, celle où on peut accéder.
Et encore souvent, on est bien coincé.
On est serré, on est bien serré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système est à saturation et il n'y a rien de pire pour les transports en commun. Si on veut que les transports en commun restent attractifs, il faut qu'ils soient accessibles. Et donc, il a été décidé de lancer un grand plan de doublement de ce dispositif. Il faut savoir que les rames, autrefois Matra, aujourd'hui Siemens, fonctionnent deux par deux, donc on passera de deux à quatre. Mais il y a du chantier, des chantiers à mener. Il faut allonger certaines stations, il faut changer tous les automatismes, il faut modifier les issues de secours pour se mettre aux nouvelles normes. Donc c'est un chantier lourd qui va durer 3 ans avec, vous le savez, 3 étés où on aura 5 semaines d'interruption.
Est-ce que toutes les stations sont concernées sur la ligne A ou certaines plus que d'autres quand même?
Alors il n'y a que 4 stations qui étaient entre 26 et 52 mètres qu'il faut allonger. Pourquoi ces stations plus courtes? Parce qu'il y avait des problèmes de tréfonds juridiques qui faisaient que si on les avait mis à 52 mètres, il aurait fallu attendre 2 ans de plus pour lancer la ligne A. Donc les élus de l'époque ont fait le choix d'attendre, mais ils ne savaient pas que ça monterait si vite. Et donc aujourd'hui, c'est un chantier de 180 millions d'euros. Il faut savoir que le gros œuvre des 4 stations, c'est que 30 millions d'euros. Pourquoi? Parce que le reste, ce sont les automatismes. Par exemple, sur Siemens, on a plus de 60 millions d'euros dans le budget d'automatisme. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres choses que la simple extension des 4 stations en cause.
Donc il va y avoir 3 tranches de travaux, j'allais dire 3 années en tout cas, 2017, 2018, oui. 2019, où chaque été donc, pendant 5 semaines, le trafic sera interrompu.
Exactement.
À terme, la hausse de capacité va se faire donc progressivement, on ne va pas y passer d'un seul coup.
Voilà, on peut passer de 230 000 à 400 000 hein, avec l'extension qui est faite, mais on le fera en fonction des besoins, c'est-à-dire qu'on passera à des capacités de 240, 250, 260, on injectera des rames sur les heures de pointe, et puis ensuite, petit à petit, on dosera le dispositif.
Et donc à terme, on aura une capacité de 400 000 passagers.
Voilà, la ligne A sera 400 000, on pourra amener la ligne B à 400 000 aussi, et puis la ligne 3 qui est prévue pour un usage à 200 000 ben, suivra le même sort, hein. C'est-à-dire qu'on veillera à ce qu'elle soit en capacité de progresser dans l'avenir.
Donc ça veut dire que la ligne B aussi va connaître des tranches de travaux du même genre.
Alors actuellement on n'est pas sur la saturation, pourquoi? Parce que même si parfois les gens trouvent qu'il y a beaucoup de monde à la ligne B, on peut injecter des rames, parce que le temps entre deux rames reste suffisant. Voilà, on peut diffuser plus de rames qu'aujourd'hui. Donc on a encore un peu de marge de manœuvre, mais sans doute un jour, il faudra agrandir la ligne B.
Alors vous avez annoncé le coût de ces travaux, 180 millions d'euros, tout compris. Est-ce que ça veut dire que ça pourrait avoir un petit impact sur la tarification?
C'est pas lié, parce que le projet a été lancé il y a quelques mois déjà. La tarification évolue, mais ce qu'il faut savoir, c'est comment est financé finalement TICEO? 250 millions, ce sont les entreprises, le versement transport. 102 millions, ce sont les collectivités locales. Et puis il reste une petite part, 70 millions, ce sont les usagers. Donc le prix du ticket, c'est 70 millions d'euros sur un espace financier beaucoup plus important.
Alors comment on va absorber donc cette perte de capacité pendant les 5 semaines des travaux d'été? Quelles sont les alternatives que vous allez mettre en place? Les lignes de bus?
Alors on a mis de lourdes alternatives en place, hein, parce qu'on sait que c'est très pénalisant. Il nous a fallu, pour l'été qui arrive, une centaine de chauffeurs supplémentaires. La moitié sont des gens de TCO qui font par volontariat ce travail, avec bien entendu une prime pour les remercier. Et puis on a recruté une bonne quarantaine de CDD pour tenir le choc avec des lignes renforcées, des lignes créées, et puis une ligne originale qui va suivre strictement le tracé des stations, qui est la ligne réservée aux handicapés. On a prévu un système propre au transport des personnes handicapées.
La ligne B du métro va-t-elle également être renforcée ?
Bien sûr, parce que c'est une alternative. Et donc, dans les trajets que les gens font, ils peuvent arbitrer. Faire le choix de la ligne B, elle sera renforcée pour tenir compte de cette montée en puissance.
Alors, vous avez parlé des lignes de bus. Les transports, ça ne concerne pas que le métro à Toulouse et en périphérie. Il y a aussi les lignes de bus Linéo, qui ont des travaux qui vont avoir lieu cet été. Quelles zones concernent-ils ? Quelles lignes vont être créées ? Parce que je crois qu'il y a des créations de lignes derrière.
Alors, en septembre, on va inaugurer 3 lignes. Là, les travaux sont quasiment terminés. Hein, ce sont les Linéo 6, 7, 8. C'est Castanet, la Côte Pavée, ce sont les lignes 22, 10. Voilà, c'est ce secteur-là. Là, c'est quasiment terminé. Par contre, on a des chantiers lourds sur d'autres Linéo. Le chantier le plus lourd aujourd'hui, c'est le Linéo 3, Plaisance, Tournefeuille, Les Arènes. Et cette ligne suppose la création de voies nouvelles, d'espaces réservés aux bus. C'est un chantier de près de 50 millions d'euros, donc qui est considérable. Il y a aussi des chantiers assez lourds sur le tracé de ce qu'on appelle le 38 aujourd'hui, qui deviendra Linéo 9, en Palo, l'Union. On a à l'entrée de l'Union un gros chantier d'aménagement de pistes en site propre.
Tout ça sera fonctionnel à quel horizon ?
Alors les Linéo, grosso modo, on en inaugure 2-3 par an, mais pour un Linéo lourd comme le 3, inauguration en 2018, le Linéo 9, c'est 2019. On a 10 projets Linéo et puis on est en train de prévoir une seconde vague Linéo, Linéo 11, 12, 13, qui viendront compléter notre dispositif. C'est quoi Linéo ? C'est de l'offre intense de qualité sur des endroits où il y a pas mal de population. La ligne A a été créée pour faire 16 000 jours. Elle fait déjà plus de 22 000 jours, ce qui est considérable pour un bus.
Donc il y avait vraiment une très grosse demande.
Très grosse demande. Hein.
Qui sans doute va encore augmenter, je suppose.
Voilà, on sent que c'est un concept qui marche. Beaucoup de villes font pareil. Nantes fait pareil. Et on sait que quand on donne aux gens de la certitude, du confort, on a des atouts et ça marche. Les deux lignes Linéo font aujourd'hui plus que le tram.
Ces travaux sur les lignes Linéo, est-ce que ça va engendrer de grosses perturbations ?
Alors, sur Linéo, c'est plus ponctuel que l'extension de la ligne A, mais quand même sur Plaisance-Tournefeuille, aujourd'hui, on sait qu'il y a des bouchons importants. Sur l'accès à l'Union, dans quelques mois, ça sera le cas. Sur le Linéo 10 qui va impacter Barrière de Paris, ça sera aussi le cas. Donc, ce sont des chantiers ponctuels, mais qui peuvent être impactants.
On va rester dans le domaine des transports, mais on va quitter un peu celui des travaux. Il y a eu une actualité assez récente dans les transports métropolitains qui a concerné une campagne de lutte contre les incivilités en général, en particulier la fraude et le harcèlement. On va commencer par la fraude. Qu'est-ce que ça représente pour TCO comme perte de chiffre d'affaires chaque année ?
On l'évalue, parce que c'est compliqué d'évaluer la fraude, on l'évalue à 10 millions d'euros par an, ce qui est une somme considérable. Et on avait constaté, pas seulement à Toulouse d'ailleurs, c'est un phénomène national, que la fraude était un phénomène en progression. Hein. Donc on a dit, soit on laisse courir et c'est le réseau qui se dégrade, parce qu'il y a l'image du réseau derrière qui compte, soit on réagit et donc on a décidé de lancer une vaste campagne contre la fraude avec de la communication au départ, mais aussi un contrôle renforcé. Hein, on a 80 personnes de plus qu'auparavant pour contrôler. Et l'enjeu, c'est de revenir sur des statistiques plus raisonnables. Il ne faut pas oublier que l'argent de la fraude, c'est un argent qui aurait pu être investi sur le réseau de transport. Donc c'est dommage de s'en priver.
Et puis c'est l'argent du contribuable.
Complètement, parce que qui compense ? Ben, c'est l'impôt, hein. Y a pas de secret.
Elle se manifeste comment, cette fraude ? On en voit de temps en temps dans le métro des gens qui sautent par-dessus le tourniquet, ouais. Ou qui profitent du passage de quelqu'un pour passer en même temps. Il y a d'autres formes de fraude ?
Alors sur le métro, c'est surtout ça. On voit aussi beaucoup d'utilisation du passage handicapé. Et puis sur le tram ou sur le bus, c'est plutôt le non-compostage. La personne qui rentre, qui ne composte pas et qui donc fait son trajet sans payer son parcours.
Donc je suppose que la verbalisation va être accrue aussi. Il faut bien que les gens s'y attendent.
Bien sûr. Elle est déjà accrue. On a déjà des statistiques qui montrent qu'on a un certain résultat. Le but n'est pas de verbaliser pour verbaliser. Le but est de verbaliser pour réguler, pour que les gens rentrent dans des comportements civiques.
Autre incivilité intolérable, c'est le harcèlement dans les transports. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend bien compte, lorsqu'on prend le métro régulièrement, en tout cas sur certaines lignes, on peut le constater. Quelle est la situation actuellement? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a des faits, des plaintes plutôt, un nombre de plaintes bien répertoriées?
Alors sur Toulouse, oui, c'est une opération qu'on a montée avec la Ligue des droits de l'homme. On a voulu monter ce partenariat avec un nombre de plaintes qui est de l'ordre de 130 par an. Mais c'est la plainte effective. Ça veut dire que pour nous, on estime qu'entre la plainte et la réalité, il y a un rapport de 1 à 10. Et donc, on considère que c'est en réalité plus de 1300 personnes qui auront été impactées dans le métro. C'est pas acceptable. Alors, je dis métro, ça peut être aussi bus ou tram, mais c'est surtout le métro. Et l'enjeu pour nous, c'est de réduire cette situation pour aboutir à quelque chose de moralement plus acceptable.
Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour enrayer ce phénomène?
Alors, la campagne qu'on a lancée a eu pour but de stigmatiser le phénomène et d'inciter les personnes à s'autodéfendre, à dire aux gens autour, ne soyez pas inertes, réagissez. Et puis surtout, on a mis en place tout un accompagnement à la fois psychologique et juridique. Psychologique pour aider la personne à se remettre quand elle était agressée, mais surtout juridique pour l'accompagner dans son dépôt de plainte. On considère que chaque fois qu'il y a un problème, il faut qu'il soit juridiquement marqué. Et donc, on accompagne jusqu'au commissariat. On peut même mettre à disposition des avocats. On a vraiment un système très, très protecteur pour les personnes, pour les aider à franchir le pas. Souvent, elles n'osent pas franchir le pas.
Quelqu'un qui serait agressé, harcelé dans le métro, quelle est la démarche à suivre pour cette personne?
Alors, dans tous les métros, dans toutes les stations de métro, plutôt, on a une présence physique. Et ces personnes ont été formées, justement, à gérer ce type de difficultés. On a une formation à l'agression. Et donc, elles sont complètement briefées pour accompagner. Donc, il faut aller dans la station, s'adresser à la personne qui est de permanence. Et là, tout l'accompagnement est enclenché.
Je parlais de harcèlement, on peut parler aussi peut-être d'agression. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agressions dans les transports en commun, dans la métropole toulousaine?
Alors, ça dépend là encore des transports en commun. Paradoxalement, le métro est un lieu où il y a peu d'agressions pour une raison simple, c'est que depuis son inauguration en 93, on a mis en place un système de vidéosurveillance et il y a plus de 800 caméras dans les deux lignes du métro toulousain actuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agresseur est repéré. Et on a eu plusieurs sanctions juridiques lourdes liées à ce repérage. Donc on utilise très clairement la vidéo-verbalisation. On a plus de problèmes sur des agressions dans les bus ou dans les trams qui sont plus fugitives et plus difficiles à marquer.
Ça concerne certaines heures de la journée plus que d'autres. J'ai tendance à penser que la nuit peut-être.
Alors le soir et puis les moments paradoxalement où il y a vraiment beaucoup de foule. La foule peut générer des comportements déviants, mais c'est vrai qu'on a une surveillance accrue la nuit. On a eu des chauffeurs de bus, par exemple, qui ont accepté de ne pas laisser descendre une jeune femme pour l'amener dans un endroit plus protégé parce qu'il y avait des doutes sur l'environnement de l'arrêt de bus.
On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, la fameuse troisième ligne de métro. Il y avait eu un débat public qui s'est terminé à la fin de l'année dernière. Où on en est aujourd'hui sur ce projet et même sur le trajet?
Alors, le trajet, vous l'avez vu hier dans les médias, on a présenté mercredi la troisième ligne de métro avec les stations définitives. Ces stations définitives, elles sont susceptibles de bouger à la marge, mais on est vraiment sur quelque chose qui est aujourd'hui bien étayé. Les enquêtes études ont été poussées. On a encore une enquête publique à faire qui peut faire bouger les éléments de cette ligne. Mais on respecte depuis 2 ans strictement un calendrier qui avait été annoncé. Donc, si on continue à rester sur cette vague, en 2019, le premier coup de pioche sera donné pour une inauguration en 2024.
Donc, ça veut dire qu'on est mi-2017, mi-2019, on peut escompter que les travaux soient lancés pour cette troisième ligne de métro?
Je le pense et je l'espère.
Et donc, on aurait la troisième ligne en fonction à l'horizon 2024, c'est ce qui était prévu? On reste là-dessus?
On reste là-dessus et je dis toujours, les lignes A et lignes B ont été faites dans les temps. Alors, un chantier peut toujours prendre du retard, mais le constat est que les 2 premières lignes métro à Toulouse ont été faites en respectant le timing.
Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer le trajet tel qu'il est prévu aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on dévie un petit peu pour desservir une zone qui n'était pas forcément prévue au départ.
On a l'exemple de la ligne B d'Ampalo. La ligne B ne passait pas par Ampalo et après l'enquête publique, il a été décidé de corriger le tracé parce qu'il y avait cette poche de population considérable qui était en marge du dispositif. Et on le voit d'ailleurs quand on regarde le tracé de la ligne B. Mais je pense que quand même les études qu'on a faites sont très très poussées, qu'on a laissé personne sur le bord. Et je crois qu'à partir de là, ça risque d'être le tracé quasi définitif.
Eh bien, on suivra de près l'actualité donc de ce chantier, de ces troisième ligne de métro, très attendu bien sûr. Beaucoup de travaux en perspective donc, que ce soit dans le métro ou sur le réseau de bus, une campagne et des actions préventives contre la fraude et les incivilités. Nous en avons parlé, merci beaucoup Jean-Michel Latte pour toutes ces informations sur l'actualité des transports métropolitains et d'avoir été l'invité de cette émission, la dernière de la saison, je le rappelle. Pour ceux qui voudraient en savoir plus et avoir tous les détails sur les dates des chantiers, les perturbations et les alternatives prévues sur le réseau des transports en commun de la métropole durant les travaux cet été, je vous invite à consulter le site de Tisséo, www.tisseo.fr. Il y a également bien sûr le site de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, à la rubrique Mission Déplacement. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Profitez bien de vos vacances pour vous reposer, vous dépayser et faire ce que vous aimez, ça c'est très important. On se retrouve maintenant à la rentrée en septembre et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.